Radio, l'émission sur la Loire et les rivières du bassin de la Loire. Ensemble, prenons soin de l'eau.
Donc Cyril Deshaies, vous êtes responsable du pôle eau douce au VVF France. Vous avez suivi de près le dossier sur les PCB. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les PCB et en quoi ils sont dangereux pour les fleuves et les rivières ?
Les PCB ou polychlorobiphényles, ce sont des molécules qui ont été créées par la main de l'homme dans les années 30, massivement utilisées en raison de propriétés intrinsèques intéressantes pour des applications industrielles. Ils sont également connus sous le nom de pyralène en France, mais sous d'autres noms et d'autres appellations commerciales à l'étranger. Ils ont fait l'objet d'une utilisation massive, notamment dans le secteur électrique, condensateur, transformateur, dans des revêtements de sol, dans des joints de calfeutrage, de fenêtres, dans des peintures, comme solvant pour disperser des pesticides, etc., etc. La liste d'utilisation de ces produits est relativement longue. C'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on les retrouve un peu partout, disséminés dans notre environnement.
Et alors, en quoi sont-ils dangereux pour les fleuves et les rivières ?
Eh bien, la dangerosité de ces produits tient à leur propriété intrinsèque intéressante qui a fait l'objet, je dirais, d'une utilisation massive. C'est que ce sont des molécules qui sont persistantes et très stables par rapport à une dégradation chimique, résistance à la chaleur, montée en température. Ce qui fait que ce sont des molécules qui sont persistantes et qui ont une faculté de bioaccumulation dans les écosystèmes. Ça veut dire que ce sont des molécules qui sont assez peu solubles dans l'eau, qui sont plutôt solubles dans les lipides, les matières grasses, et qui ont une propriété pas très intéressante pour nos écosystèmes, c'est qu'ils ont une faculté de se fixer prioritairement sur les matières en suspension ou dans les sédiments. Et donc, au gré des crues, en fait, ces sédiments qui sont remis en suspension vont ensuite contaminer les chaînes alimentaires. En premier lieu, tout ce qui est micro-organismes contenus dans les sédiments. Ensuite, les micro-organismes qui peuvent se développer dans la masse d'eau, donc le zooplancton, éventuellement phytoplancton. Et ensuite, tous les prédateurs qui vont successivement se bouffer les uns les autres pour arriver, in fine, en fin de chaîne alimentaire, éventuellement à l'homme qui peut consommer des produits qui sont contaminés. Il faut déjà savoir que ces molécules, les PCB, sont considérées au niveau mondial par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme les molécules les plus dangereuses. Elle fait partie des 12 molécules les plus dangereuses au niveau international.
La nocivité des PCB est connue depuis relativement longtemps. Pourtant, on a continué à l'utiliser largement. Comment se fait-il qu'on continue de trouver des PCB dans l'environnement ?
La difficulté, c'est que ce sont des produits qui sont persistants, qui ont fait l'objet d'une utilisation relativement large par rapport à leurs propriétés intéressantes d'un point de vue industriel. Ils ont été seulement interdits en 1987 en France. Au niveau européen, il y a une directive en fait qui date de 2000 visant à ce que les États membres prennent en charge effectivement l'élimination de ces PCB et une échéance qui est fixée à 2010. Pour que l'ensemble des pays qui détiennent, je dirais, des PCB, mais à un niveau de concentration supérieur à 500 ppm, aient apuré leur parc. Et la France a pris du retard par rapport à l'application de cette directive. En fait, on a fixé un seuil pour orienter prioritairement la destruction des PCB. En fait, quand on dit 500 ppm ou 50 ppm, c'est peut-être pas parlant au grand public. En fait, c'est la concentration, c'est des milligrammes par litre ou des milligrammes par kilo. Donc on a défini en fait prioritairement les produits décelant une concentration supérieure sur laquelle on devait prioritairement orienter la destruction. C'est pas pour autant qu'on se préoccupe aujourd'hui de savoir effectivement quand on a de la déconstruction de bâtiments anciens où on a des revêtements de sol, des joints de calfeutrage, des petits starters de néon qui contiennent des PCB, des peintures, des vieilles peintures qui datent des années 60-70, etc. Tous ces issues de construction ne font pas l'objet d'une prise en compte particulière par rapport à une élimination et éventuellement un confinement dans un endroit particulier pour limiter la dispersion dans l'environnement. Donc on a fait tout et n'importe quoi, et je considère encore aujourd'hui que la prise en compte de cette diffusion dans l'environnement a été prise en compte à partir du moment où la crise a émergé en 2007.
We'll be right back.
qui a été révélée, c'est la contamination du Rhône au PCB. De quoi s'agissait-il à l'époque ?
Sur le Rhône, le problème est sorti suite à l'engagement d'un pêcheur professionnel qui, de sa propre initiative et avec ses propres deniers, a fait des analyses sur ses poissons, croyant au prime abord avoir décelé un problème de contamination non pas par les PCB mais plutôt par le plomb. Le labo qui lui a rendu effectivement les résultats ont décelé des teneurs relativement hautes et anormales au-dessus des seuils réglementaires qui autorisent ou non le retrait du marché de la consommation humaine. Ça date de 2005. Sachant qu'il y a déjà eu sur le Rhône, il y avait déjà eu un certain nombre de faits et de publications scientifiques de travaux dans les années 80-85, notamment l'INRA qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Eux s'étaient saisis du dossier et avaient saisi les instances officielles pour qu'elles agissent en 90, ça n'a pas été suivi d'effet. Ça fait plus de 20 ans. Donc voilà, on a laissé perdurer, je dirais, une contamination. Donc il y a des gens qui étaient au courant et qui n'ont rien fait pendant 20 ans. La situation a éclaté à partir de la problématique du Rhône, d'abord sur un problème environnemental, ensuite de santé humaine qui a été et qui est encore occulté aujourd'hui. On minimise également le risque. Donc initialement, c'est vrai que c'est parti d'un pêcheur professionnel et progressivement, donc les préfets, le département du bassin versant du Rhône concerné. Ensuite, ce qui s'est passé, nous on s'est saisi du dossier en août de 2007, on était en plein Grenelle de l'environnement, sachant que je travaille avec un journaliste d'investigation qui avait alerté un peu sur ce dossier. Donc d'abord une association locale, la FRAPNA. On a pris des contacts téléphoniques avec des élus locaux donc, qui avaient porté plainte sur ce dossier, pêcheurs professionnels bien entendu qu'on a rencontrés, et puis des représentants de la pêche associative de loisirs. Donc suite à ces rendez-vous, on s'est déplacé sur le terrain pour recueillir ces témoignages et on a enregistré un certain nombre de choses et on a assisté à une opération de dragage dans le périmètre de la zone de captage d'eau potable du Grand Lyon. On a tout de suite, nous, eu le réflexe et émis l'hypothèse que l'eau brute était contaminée, qu'il y avait un problème de santé publique derrière. Suite à ces images, on a mis ça sur Internet, on a fait la première page du Monde sur leur site web et on a eu 17 000 connexions en une journée. C'est remonté au niveau du Premier ministre et puis la crise est partie de là.
Le bassin versant de la Loire et de ses affluents est plutôt à l'abri des pollutions dues au PCB. C'est vraiment le bassin du Rhône qui a été touché.
La Loire a ceci d'intéressant, c'est qu'effectivement, étant le fleuve le moins aménagé, c'est celui qui est le moins concerné aujourd'hui par rapport à la pollution des PCB. Le Rhône, je dirais, est touché, mais ne fait pas partie des fleuves les plus préoccupants au niveau national. On considère aujourd'hui que la Seine est majoritairement beaucoup plus touchée que le Rhône. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi le dossier ne sort pas comme sur le Rhône pour la Seine ? Il faut savoir que la Seine, c'est globalement un bassin versant qui concerne, je dirais, le quart, voire le tiers de la population métropolitaine. Qu'en ligne de mire, il y a l'agglomération parisienne, qui a une station d'épuration qui est la première au niveau national en termes de capacité de traitement et la deuxième au niveau mondial, c'est la station d'épuration d'Achères, et que cette station d'épuration n'est pas conforme aujourd'hui à la directive sur les eaux résiduaires urbaines, directive européenne, qui date de 91. Et aujourd'hui, les stations d'épuration sont une source d'émissions et d'alimentation des écosystèmes avec les PCB. Dans la mesure où la station d'épuration n'a pas un rendement, notamment sur les matières en suspension, d'élimination de 100%, vous avez toujours un rejet dans l'écosystème aquatique. Alors après, on peut nous demander, oui, mais d'où viennent ces PCB qui arrivent à la station d'épuration ? Ça vient de deux choses. La première, c'est que globalement, l'homme étant imprégné par les PCB, même si globalement, il les élimine difficilement, il en élimine un peu par les voies naturelles, par les voies métaboliques, et donc il se retrouve au niveau des excréments. Et donc, par voie de conséquence, quand il y a une station d'épuration, eh bien, ça se retrouve à la station d'épuration. Donc ça, c'est la première source. Et puis ensuite, comme on n'est pas non plus en réseau séparatif. Donc il y a une partie les eaux pluviales et une partie les eaux issues d'égouts et de nos toilettes qui sont tous collectés et qui arrivent à la station d'épuration. Et pour les eaux pluviales, à partir du moment où vous pouvez avoir potentiellement un transformateur qui n'a pas de cuve en inox récupérant éventuellement le gouttage d'un transformateur qui fuirait, donc ça c'est une source de contamination, d'ivage des caniveaux, crac, on retrouve, et voilà. Donc les stations d'épuration sont clairement identifiées, il y a un certain nombre de publications scientifiques qui le démontrent, comme étant contributeurs de PCB.
Au niveau de la pêche professionnelle, il y a sûrement un impact très fort sur cette activité économique.
Malheureusement, ce sont principalement nos veilleurs qui sont les plus durement touchés par rapport à cette crise PCB. Aujourd'hui, ce qu'on leur propose par rapport à certains qui ont exercé, qui ont fait que ça toute une vie, voilà, on leur donne 30 000 euros et maintenant vous changez de métier, quoi. Donc c'est inacceptable. Donc qu'est-ce qu'on leur propose comme alternative ? Nous, la demande qu'on avait formulée, c'était de pouvoir relocaliser les pêcheurs qui ne pouvaient pratiquer sur leur lot de pêche en raison d'une contamination des sédiments et des poissons dans des sites qui était indemne. C'est ce qui avait été envisagé par le préfet de bassin sur le Rhône. En raison de pression politique, il n'en est presque plus question, où on fait tout pour gagner du temps pour éviter la relocalisation. Non, c'est une absence de volonté politique, qu'on soit bien clair là-dessus.
Cette émission vous a été présentée par SOS Loire Vivante, avec le soutien du Conseil Général de Haute-Loire et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci et à bientôt.